C'est le dernier dimanche du mois d'août, c'est presque la fin des vacances, et cette semaine donc j'ai pu rencontrer quelques personnes et une personne me disait, c'est vrai que pendant les vacances tu me disais que, même avant de commencer les vacances, tu me disais que c'était important de maintenir notre foi spirituelle, mais aussi approfondir notre foi. Et elle disait que, oui, c'est vrai, c'est difficile d'approfondir notre foi, de maintenir même notre état spirituel, puisque on se laisse aller pendant les vacances. Et parce que, voilà, on aimerait se reposer, etc. Et elle disait que spirituellement, c'est vrai qu'on a du mal à être au top niveau. Ce genre de questions, on se pose aussi même pendant l'année. Certains chrétiens se disent, mais pourquoi moi, qui suis chrétien, je n'arrive pas à changer mon caractère? Pourquoi, alors que je viens à l'église régulièrement, alors que je lis la Bible régulièrement, alors que je prie aussi, pourquoi j'arrive pas à abandonner mes mauvaises habitudes? Pourquoi, dans ma vie personnelle, je ne vois pas le fruit de l'esprit, le fruit de ma repentance? Pourquoi j'arrive pas à progresser alors? Et pourquoi je stagne tout le temps? Est-ce que vous vous êtes posé ce genre de questions? Ah ben c'est bien, déjà, il y a pas mal, plusieurs têtes qui hochent la tête. Oui, 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 je me pose cette question. Et oui, parfois on se demande, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? En tout cas, c'est une très bonne chose, déjà, si on se pose ce genre de questions. Cela veut dire aussi qu'on se remette en question sur notre foi spirituelle. C'est déjà une bonne démarche. C'est vrai que le Seigneur nous a touchés un jour, nous a appelés et il nous a éclairé notre œil spirituel. Nous avons vu, nous avons expérimenté. Il nous a semé même dans notre cœur sa parole. Et après, qu'est-ce que nous avons fait avec cette semence que Dieu a mis dans mon cœur? Certains, avec cette semence, a grandi, d'autres a stagné ou même régressé. Et j'aimerais commencer cette prédication avec cette parole un peu sévère de Jésus qui parle auprès des religieux. Il disait, dans Matthieu 3, il disait « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et après, il a dit au verset 10, « Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Voilà, c'est une parole très sévère. « Tout arbre mauvais sera coupé, qui ne produit pas de fruits, sera coupé et jeté au feu. » Lorsque nous venons auprès du Seigneur, oui, nous expérimentons la repentance qui est juste un commencement de notre foi. Hein? Et justement, le Seigneur demande que nous ayons tous le fruit de la repentance. C'est bien d'expérimenter cette rencontre avec le Seigneur, mais après, il faut qu'il y ait du fruit. Sinon, s'il n'y a pas de fruit, nous serons coupés et jetés au feu. Alors, on peut se demander pourquoi on n'arrive pas à obtenir cet fruit de repentance. On peut voir cela à travers la parabole des semeurs dans Matthieu 13. Vous savez, dans ce parabole de semeurs, nous voyons quatre exemples de champs. D'abord, le premier champ, c'est un lieu où il y a les semences sont tombées sur le long chemin, long de chemin. Et puis, le deuxième endroit où les graines sont tombées, c'est dans les endroits pierreux. Et puis le troisième endroit, c'est le champ d'épines. Et puis le quatrième endroit, c'est sur la bonne terre. Voilà donc, nous voyons quatre exemples où la vérité a été semée dans le cœur. Et nous voyons un petit peu, nous allons voir un petit peu à travers chaque exemple ce que signifie. D'abord, je vous lis dans Matthieu 13, à partir du verset 3, où il est dit, voilà, Jésus leur parle par là en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, verset 4, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Voilà, le long du chemin. Comment un chemin se crée ? En marchant. Voilà, on marche. Il y a beaucoup de passages. Les gens marchent. Même les animaux. Vous voyez, dans les forêts, on voit aussi les petits chemins que les animaux aussi ont fait. Et puis, plus on marche, la terre devient dure. Exactement. La terre devient dure. Peut-être que cette terre était une bonne terre à l'origine. Mais avec ces passages, cette terre devient dure. Et Jésus explique plus tard, au verset 19, ce que ça veut dire, en fait, cette semence qui est tombée le long du chemin, et que qu'est-ce que ça veut dire, les oiseaux qui viennent, qui mangent cette semence. Il dit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le malin enlève ce qui a été semé. Un jour, au mois d'août, j'ai été invité chez quelqu'un pour parler de l'évangile, enfin, pour suivre cette personne. Et cette personne avait avait invité deux personnes qui sont non-croyants. Vraiment pas du tout, ils connaissent rien du tout de l'évangile. Et pendant 2 heures, je leur ai parlé de l'évangile, parce qu'ils étaient intéressés. Ils étaient encouragés même. Ils étaient en recherche de Dieu. Et je leur parlais vraiment du parcours, enfin de tout ce qui existe. Et je leur répondais aussi à toutes leurs questions. Et ils étaient vraiment encouragés. Mais le problème, c'est que ces gens-là sont aussi intéressés par d'autres choses. On peut leur parler de l'évangile. Ils peuvent être touchés sur le moment, même ouvrir un petit peu leur cœur en se disant, mais c'est vrai que c'est peut-être vrai. Et même, ils s'intéressaient à cet évangile qui pouvait les sauver. Mais le problème, c'est qu'ils sont toujours en contact avec les choses du monde, avec les personnes qui leur parlent d'autres choses, de la philosophie, dans le bouddhisme, ou encore autre occultisme. Hein. Ils étaient confrontés à ce genre de choses. Et voilà, donc le malin enlève ainsi ce qui a été semé dans leur cœur. Qu'est-ce qu'on cultive ? Ces personnes cultivaient plutôt des choses spirituelles, mais toutes sortes de choses spirituelles. Hein. Et voilà, nous devrions justement cultiver un peu davantage les choses de Dieu plutôt que les choses du monde. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il est dit que « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, nous avons été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous lui appartenons. Mais qu'est-ce que nous faisons de notre corps, de notre esprit, de notre état? Arrêtons et arrêtons de cultiver les choses du monde, mais plutôt cultivons vraiment les choses des cieux. Et voilà donc le premier exemple sur la semence qui est tombée sur le long chemin. Le deuxième exemple, c'est à propos des endroits pierreux. Je vous lis au verset 5, verset 6, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Voilà donc ce grain qui est tombé dans les endroits pierreux, il n'y avait pas beaucoup de terre. J'étais un jour invité chez quelqu'un il y a très longtemps, dont cette personne avait une grande maison et aussi un grand jardin. Je pense que ceux qui ont des jardins, vous travaillez souvent, donc en ce moment, puisque vous êtes en vacances, non, vous ne travaillez pas. Non, vous ne faites pas le ménage dans votre jardin. Peut-être que si. En tout cas, cette personne avait fraîchement déménagé. Et puis, j'ai vu dans son jardin plein de pierres. Et il était en train d'enlever les pierres parce qu'il voulait vraiment un beau jardin avec un, vous savez, un super jardin, hein, tout vert. Et il enlevait. Et puis, des mois plus tard, je suis allé encore chez lui. Et il était en train encore d'enlever des pierres parce qu'il y en avait plein. Hein, il ne pouvait pas travailler tous les jours. Il travaillait seulement après son travail. Et puis, j'ai vu les pierres enlevées de son jardin. C'était énorme. C'était entassé juste à côté, mais c'était vraiment énorme. Il y avait même des pierres, mais aussi des rochers. Il avait utilisé des machines pour enlever toutes ces pierres. Et voilà. Alors qu'au départ, quand j'ai vu, ben, je voyais une bonne terre, mais en cherchant, il y avait quand même pas mal de cailloux, de pierres qui... Il y avait plus de cailloux que de terre, en fait. Et du coup, il a dû acheter de la bonne terre pour avoir un beau jardin. Quelques mois plus tard, c'était vraiment très très beau. Hein? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire alors, cette semence qui est tombée dans les endroits pierreux, où voilà, cette semence pousse un petit peu, mais avec le soleil, bah, ça brûle, ça sèche. Faute de racines. Voilà, faute de racines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça explique encore au verset 20. Celui qui a reçu cette semence, la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole. Voilà, donc un chrétien qui entend. Et qui la reçoit aussitôt avec joie. Donc il y a des gens qui reçoivent, qui découvrent l'évangile, qui sont très heureux, qui sont peut-être tout au début tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Mais, voilà, il n'a pas de racine. Il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, à cause de sa foi, il y trouve une occasion de chute. Voilà, donc, si on n'est pas bien enraciné au Seigneur, dès qu'il y a une tribulation, des problèmes, une persécution à cause de la parole de Dieu, à cause de notre foi, ben, on abandonne vite. Et je dirais même, il n'y a pas de fruit de repentance. Même si nous avons vécu une expérience particulière. C'est pour ça que les nouveaux chrétiens, ils stagnent beaucoup au départ. Ils découvrent, ils sont tout feu, tout flamme. Je les vois même. Parfois, je visite les personnes qui ont découvert récemment l'Évangile, hein, et puis ils sont tout feu, tout flamme, mais ils n'arrivent pas à abandonner les mauvaises habitudes et ils retournent dans leur vie de passé. Et ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas été enracinés. Et à ce genre de personnes, ils ont besoin d'être entourés par des chrétiens mûrs qui puissent vraiment les diriger pour qu'ils s'enracinent vraiment dans la parole de Dieu. Oui, ils manquent de maturité. Et puis, ce genre de personnes, ce sont pas forcément des chrétiens, des jeunes chrétiens. Hein. Ça pourrait être des chrétiens qui stagnent. Vous savez, ils découvrent l'Évangile. Leur but, c'est... Voilà, ils ont découvert le salut même, l'espérance. Et puis... Et voilà, c'est tout. Ils n'arrivent pas à progresser davantage. Parce que dès qu'il y a une tribulation, dès qu'il y a des persécutions à cause de leur foi, ils abandonnent vite. On voit ça aussi dans les pays musulmans. Vous voyez, là où il y a des persécutions. Nous avons entendu la semaine dernière, à travers le culte de Portes Ouvertes, combien de chrétiens sont persécutés et que eux, ils maintiennent leur foi. Mais on parle des choses, des chrétiens qui maintiennent, qui persévèrent, mais il y a aussi des chrétiens qui abandonnent leur foi, malheureusement. Parce qu'ils n'ont pas été enracinés. En vérité, je vous le dis, dans Jean 12, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner un petit peu à nous abandonner pour porter ce genre de fruits? Un endroit pierreux, c'est celui qui a un cœur qui n'est pas mort pour le Seigneur. Souvent, ce genre de personnes, ils pensent toujours à soi-même, à sa vie, à son confort personnel, à sa situation financière. Peut-être, ils donnent plus d'importance à ses amis qui le regardent. Mais le Seigneur dit, il faut aussi être prêt à abandonner tout pour le Seigneur. Peut-être ce genre de personnes s'intéressent aux bénédictions que le Seigneur leur accorde, à la vie éternelle, mais ne s'intéressent pas au prix à payer pour devenir des vrais disciples. Ils ne se donnent pas entièrement à la parole. Ils ne sont pas complètement saisis par la parole. Troisième exemple, chapitre 13, verset 7, dans Matthieu. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Voilà donc les mauvaises herbes, les épines qui poussent et qui grandissent très facilement. Vous savez, on n'a pas besoin de leur donner à boire. Ils grandissent bien, bien vite, les herbes, les mauvaises herbes surtout. Oui. Ils grandissent assez vite. J'aimerais donc vous lire les versets suivants qui expliquent un petit peu ce que ça veut dire au verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Là donc, les soucis du siècle. On se soucie aussi de l'argent, souvent. Y a beaucoup de gens qui s'inquiètent sur comment on va vivre. Et puis, j'ai vu des gens qui commettent aussi des infractions dans leur travail pour gagner plus d'argent. Je me rappelle quelqu'un qui disait, mon patron me demande de faire ceci. C'est injuste, c'est commettre un péché, donc moi j'ai refusé. Et à cause de ce refus, cette personne a été licenciée plus tard, parce que c'est pas seulement une fois ou deux fois qu'elle a refusé, mais plusieurs fois. Du coup, elle a été licenciée. Parfois, oui, il y a des gens qui sont prêts à même sacrifier leur travail. Mais d'autres personnes, ils se disent, tout le monde fait comme ça. Donc, pourquoi ne pas se soumettre? Et puis, c'est un petit instant. Et puis moi, je tirerai des avantages après cela. Voilà, donc nous, alors en tout cas, les gens qui... Ces grains qui sont tombés parmi les épines, c'est ceux qui ont des soucis de siècle, qui sont liés par la séduction des richesses. Et puis, parfois, nous pouvons avoir une incertitude de l'avenir, des craintes, etc. Mais dans Matthieu 6, 25, il est dit que c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le Seigneur nous demande de chercher premièrement le royaume et sa justice, et ainsi toutes choses seront données par-dessus. Pourquoi nous n'arrivons pas à croire à la promesse de Dieu? Pourquoi nous n'arrivons pas à faire plus de confiance? Pourquoi on doit faire plus de confiance à l'argent et au matériel qu'à Dieu? Alors comment changer? Comment changer? Dans Matthieu 16, 24, il est dit que Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'on puisse vraiment se charger de cette croix que le Seigneur nous met dans notre cœur et qu'on puisse vraiment le suivre. Et quatrième exemple que nous voyons dans ce chapitre à travers le parabole des semeurs, c'est la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit un grain 100, un grain 60 et un autre 30. Voilà, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Voilà, c'est ça la bonne terre. Non seulement on est content, joyeux d'entendre cette vérité, mais non seulement on entend, mais aussi on obéit, on met en pratique ce que le Seigneur nous rappelle. C'est pas avoir une bonne terre, c'est quoi? C'est pas être gentil ou ne pas être tenté ou ne pas pécher. C'est pas ça du tout. Avoir la bonne terre, c'est on peut être tenté comme le Seigneur, mais crier au Seigneur, à l'aide du Seigneur, Seigneur, au secours, j'ai besoin de toi. Comme le lépreux qui a demandé au Seigneur, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Comme l'aveugle qui a imploré au Seigneur, oui, sauve-moi. Parfois, il peut y avoir peut-être des épines qui poussent dans notre champ, ou peut-être nous avons des pierres à enlever. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses du monde qui passent et qui fait des chemins dans notre champ. Nous devrions enlever tout cela et méditer un peu plus la parole de Dieu, être vraiment dans la méditation, dans l'intimité avec le Seigneur, pour vivre avec le Seigneur, pour vivre en compagnie du Seigneur. Et ainsi le Seigneur nous donnera sa bénédiction. J'aimerais terminer donc ce message avec cette parabole du mariage dans Matthieu 22. J'aimerais vous lire. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Un habit de noces. Cet homme eut la bouche fermée. Voilà donc le roi. Ici, on voit un exemple d'un roi qui donne un habit de noces aux personnes, aux invités, pour qu'ils viennent avec cet habit de noces. Mais cette personne n'avait pas pris l'habit donné par la grâce. Au verset 13, il a dit, « Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » C'est quoi cet habit de noces? On peut peut-être voir dans Apocalypse 19:8, il est dit, « Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Voilà, c'est quoi cet habit de noces? Ce sont les œuvres justes, ce sont les fruits de la repentance. Le Seigneur aimerait vraiment que nous soyons revêtus de cet habit de noces à travers les œuvres justes, les œuvres qui permettent justement d'aller de l'avant en ayant cette bonne terre dans notre cœur. Oui, abandonnons notre convoitise, abandonnons notre égoïsme, notre orgueil, arrachons-les vraiment, enlevons vraiment toutes ces pierres qui nous freinent à avancer. Non seulement, oui, bien sûr, nous avons expérimenté cette rencontre avec le Seigneur avec beaucoup de joie, mais il faut aussi cultiver, il faut faire grandir pour que nous puissions connaître, en tout cas porter beaucoup de fruits. Que le Seigneur nous bénisse et que nous continuions en tout cas à travailler cet amour de Dieu, cette grâce de Dieu pour que le Seigneur nous touche. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur. À travers cette parole du parabole des semeurs, tu nous as parlé combien il était important vraiment de travailler aussi ce champ. C'est vrai, par notre propre force, nous ne pouvons rien faire. C'est par la grâce, par l'Esprit de Dieu, par la force de l'Esprit de Dieu que nous pouvons changer notre vie. Et je ne sais pas dans quelle étape nous sommes, dans quelle terre sont nos champs. Mais Seigneur, faites que nous puissions vraiment travailler davantage pour que notre champ devienne une bonne terre, ainsi pour pouvoir porter beaucoup de fruits. Seigneur, oui, nous avons beaucoup de manquements, nous avons beaucoup de défauts, mais par la grâce de Dieu, on peut te ressembler, on peut même abandonner nos mauvaises habitudes. Et Seigneur, oui, aide-nous vraiment à fier davantage à cette croix qui nous pardonne, qui nous élève, Seigneur, vers toi. Aide-nous vraiment à avoir cette envie d'enlever les mauvaises herbes qui est dans notre cœur par la force de l'Esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons que nous sommes dans cette époque de la Nouvelle Alliance et que maintenant que tu nous accordes cet Esprit qui nous élève vers le haut, aide-nous vraiment à t'imiter davantage, à te ressembler davantage, à aller vers cette sanctification, à avoir ce nouveau cœur accordé par toi, Seigneur, pour mieux connaître l'amour et la grâce de Dieu. Seigneur, que ton nom soit loué, que non seulement notre connaissance grandisse, mais notre obéissance aussi, la mise en pratique soit aussi présente dans notre vie. Nous te louons pour tes bienfaits, au nom de Jésus. Amen.